Notre invité aujourd'hui est Patrick Cohen et moi-même est Jean-Philippe Véter, candidat aux élections municipales de Strasbourg 2020. Tête de liste, Les Républicains. Baptisé un nouveau souffle pour Strasbourg, excusez-moi. Bonjour Jean-Philippe Véter.
Bonjour à vous.
Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour Valérie.
Alors je vous propose un petit portrait non exhaustif pour permettre à nos auditeurs de vous découvrir un petit peu avant les élections du 15 et 22 mars prochains. Jean-Philippe Véter, vous êtes né en 80 à Colmar, dans le Haut-Rhin, d'un père boulanger et d'une mère infirmière qui deviendra infirmière. Vous avez deux frères, le baccalauréat S en poche. Vous entamez des études sportives au STAPS jusqu'à la maîtrise avant de commencer des petits boulots de surveillant dans des établissements scolaires. Vous commencez votre engagement politique en 2004 en frappant à la porte de l'UMP et devenez militant de base jusqu'en 2014 où vous êtes élu conseiller municipal et communautaire d'opposition et siégez donc dans l'hémicycle strasbourgeois. En 2012, vous êtes diplômé de l'Université de Strasbourg d'un Master 1 de sciences politiques et sociales et devenez assistant parlementaire européen de Fabienne Keller. Poste que vous quittez pour lancer votre start-up expérience qui tourne court et vous vous retrouvez même un temps chômeur. Jean-Philippe Véter, vous revendiquez venir d'un milieu moyen et de vous être donné les moyens de réussir. Vous revendiquez vos origines.
Disons, c'est un milieu populaire, effectivement, où on vivait au-dessus de la boulangerie. C'est sans doute une sensibilité toute particulière à cette France qui travaille. Cette France qui fait pas de bruit, mais qui, chaque jour, travaille matin, midi et soir. Et notamment cette sensibilité toute particulière au monde de l'artisanat et des commerçants. Et c'est vrai que au centre-ville comme dans nos quartiers, on a besoin de nos commerces. Parce que c'est ceux qui font vivre la ville au quotidien et c'est sans doute pourquoi je les défends autant actuellement.
Les commerçants, les artisans, les entrepreneurs, effectivement, c'est au cœur de votre programme.
Oui, pourquoi ? Parce que on peut promettre de créer des centaines d'emplois pour les Strasbourgeois, mais si c'est des emplois publics, ce sont avec l'argent des Strasbourgeois. Il n'y a pas d'argent magique. Ça viendra directement des poches des Strasbourgeois. Moi, je pense que c'est pas à l'administration et au pouvoir public de créer des emplois. Au contraire, c'est aider les entreprises à pouvoir en créer. Et je l'ai dit, et j'étais le premier à le dire dans cette entreprise, dans cette campagne.
C'est une entreprise, une campagne.
En quelque sorte, effectivement. Mais j'ai été le premier à le dire dans cette campagne. Je veux dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs, à ceux qui peuvent investir, à ceux qui ont du talent, parce que c'est pas seulement que j'aime les entrepreneurs ou les entreprises, j'aime les emplois qu'ils peuvent créer. Et quand je vais dans mes quartiers, dans les quartiers notamment les plus difficiles et les plus pauvres de Strasbourg, on me parle que d'emplois. Donc effectivement, je ne souhaite pas être un maire qui dépense l'argent qu'il n'a pas. Je pense que pour créer des trams, pour créer de nouveaux projets, eh bien, il faut de l'argent. Eh bien, je souhaite créer de la richesse et aider nos entreprises à pouvoir créer cette richesse.
Comment on déroule ce que vous dites, ça, c'est empreint de bon sens, mais j'ai envie de dire, j'imagine que vos prédécesseurs ont aussi déroulé le tapis rouge pour les entreprises. Enfin, chacun dans une collectivité souhaite que des entreprises viennent. Comment est-ce que Jean-Philippe Véter va faire en sorte que les entreprises aient envie de venir à Strasbourg? Qu'est-ce qui va les attirer? Est-ce qu'on va les aider? Le climat local est plutôt bon. Enfin, nous, les Strasbourgeois sont très heureux d'habiter à Strasbourg, donc je pense qu'un entrepreneur qui a envie de s'installer ou développer une activité pourrait le faire. Qu'est-ce qui fera que vous le motiverez plus et que surtout vous en attirerez? Parce que vous dites bien que vous souhaitez attirer des entrepreneurs à Strasbourg.
Alors, déjà la première chose, c'est que ça ne va pas si bien à Strasbourg. On a quand même 25% de taux de pauvreté et on est l'une des rares métropoles qui a plus de chômage que son environnement territorial direct. C'est-à-dire que dans toute les autres départements, qu'on va à Montpellier, qu'on va à Rennes, qu'on va à Toulouse, la métropole est une locomotive. Aujourd'hui, la métropole strasbourgeoise, au contraire, elle a plus de chômage que le reste de son territoire, premièrement. Deuxièmement, on a une chance extraordinaire. C'est d'être à côté de la première économie européenne, c'est l'Allemagne. Et pourtant, on ne joue pas assez sur le bilinguisme. On devrait être la terre d'entrée, mais naturelle, de tous les sièges sociaux allemands, des entreprises allemandes. Or, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, quand il y a des entreprises allemandes qui ont un problème juridique, ils font appel à des cabinets parisiens qui maîtrisent parfois mieux l'allemand que les Strasbourgeois. Je souhaite donc, en tant que maire de Strasbourg, non seulement aider les petits Strasbourgeois au sein de leur école à développer encore davantage cette immersion dans le bilinguisme, car c'est une chance de pouvoir parler allemand, et c'est d'ailleurs pour de nombreux jeunes la certitude de pouvoir trouver un boulot. Mais en outre, je souhaite que les adultes, on puisse travailler avec les grandes structures qui sont actuellement Strasbourg, pour qu'on donne une deuxième chance aux adultes qui aujourd'hui ne parlent pas allemand, pour pouvoir maîtriser cette langue et donc attirer davantage d'entreprises allemandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut faciliter la vie des entreprises. Il faut faciliter la vie des entreprises. Or, lorsque je parle aux entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils me disent ? Comment avec la ZFE, vous savez, cette interdiction du diesel à partir de 2021 jusqu'à 2025, une interdiction totale qui a été décidée...
C'est aussi une préoccupation des Strasbourgeois.
Bien sûr, mais ça, on pourra en parler avant, après. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend cette décision-là, vous êtes un chef d'entreprise, vous vous demandez comment vos salariés vont pouvoir venir travailler demain. Mais c'est une vraie préoccupation. Lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous voulez vous installer à Strasbourg, vous posez cette question-là. Est-ce que j'ai une administration qui va m'aider, qui va me faciliter la vie, ou au contraire, va rendre davantage difficile la vie quotidienne de mes salariés ?
C'est une préoccupation. Alors, vous voulez que les véhicules diesel puissent rentrer après 2025, c'est ça le...
Je pense que... Alors déjà, vous savez, la question, elle est beaucoup plus compliquée et complexe qu'on le croit. Si vous voulez vraiment regarder même un véhicule électrique et faire le bilan carbone de l'ensemble de la construction du début à la fin d'un véhicule électrique, on pourrait avoir vraiment de belles surprises. Notamment sur le diesel, par exemple, sur les particules fines. Le diesel, c'est 9% des émissions des particules fines. Les freinages, c'est-à-dire les plaquettes de frein, c'est 17%. Si vous allez à la station de tram de la gare et que vous allez au sous-sol, vous avez parfois un air qui a l'air un tout petit peu trouble. C'est dû aussi à ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas améliorer l'air des Strasbourgeois. Il faut travailler, il faut au contraire, je pense, être dans l'incitation.
Sans des effets d'annonce, le diesel,
mais
25%, c'est pas sérieux, c'est ça ?
Exactement. On a pensé, on a voulu faire un effet d'annonce, on a voulu ressembler à d'autres villes qui ont voulu faire cette annonce en 2025, et on ne s'est pas préoccupé du fait que derrière, il y a des êtres humains. Il y a des familles qui ont acheté un diesel il y a 3 ans, d'ailleurs sans doute plus cher que l'essence. Aujourd'hui, ce diesel vaut plus rien. Qui va les aider aujourd'hui à pouvoir acquérir un nouveau véhicule ? Je trouve que c'est une mesure antisociale qui ne se préoccupe pas de la réalité quotidienne de ces personnes qui devront aller travailler dès 2021-2022 et qui ne sauront pas comment faire. Moi, je ne veux pas interdire aux gens de pouvoir travailler. Par contre, je veux leur proposer des alternatives. Et oui, je souhaite qu'on mette le paquet dans les transports publics pour augmenter le cadencement des transports, pour que lorsque vous prenez le transport, vous attendez pas 20 minutes ou 30 minutes, parce que là, évidemment, vous allez prendre votre voiture, mais qu'au contraire, vous pouvez avoir un cadencement de 5 à 10 minutes et qui facilitera, qui vous donnera envie de prendre les transports.
Alors, vous voulez renforcer beaucoup, j'ai noté dans votre programme, hein, le renforcement des transports publics, ça veut dire plus de conducteurs, peut-être plus de trams, l'ouverture... très populaire hein, au sein des jeunes de la BNF 24-24, qui est une de vos mesures phares. C'est aussi des plages horaires pour les salariés du public, en fait. Vous avez commencé l'interview en disant que vous voudriez développer l'activité privée et peut-être contenir, on va dire, hein, l'activité publique, mais les mesures que vous proposez vont engendrer des recrutements de nouveaux chauffeurs, de nouveaux conducteurs, de gens pour assurer la permanence de l'ouverture 24-24 de la Bibliothèque nationale. Comment on fait pour... On redispatche les gens ? Comment on fait pour ne pas augmenter la dépense publique en ayant des mesures qui, pour un Strasbourgeois lambda, se dit ça va développer la dépense publique parce que ça va augmenter le nombre de gens, en fait ?
Alors, vous savez
si
que...
J'ai été très clair dans ma question.
Ah non, mais bien sûr, je comprends parfaitement. Alors, pour ce qui est des bus et des trams, le problème de cadencement, il n'est pas lié au manque de personnel. Il est vraiment lié au fait qu'il y a un nœud aujourd'hui à l'homme de fer... qui est un nœud ferroviaire en quelque sorte. Tous les trams quasiment passent par l'homme de fer. Et donc si vous partez aux 5 coins de la ville et que chaque tram part toutes les 10 minutes, eh ben, vous arrivez à l'homme de fer à un tram toutes les 2 minutes. Donc il y a un vrai enjeu, c'est de mailler le territoire pour que tous les trams ne passent pas par l'homme de fer. Et ça, effectivement, il y a une réflexion à mener.
Vous voulez revoir les voies de tram ?
il faut effectivement qu'on puisse travailler ensemble dans la concertation pour un maillage, pour que tous les trams ne passent pas par l'homme de fer. Et dès lors, lorsque vous partirez par exemple de la Robertsau ou de l'Elzo, vous aurez, au lieu d'avoir toutes les 10 ou 15 minutes un tram, vous les aurez toutes les 3, 4, 5, 6 minutes. Et donc, au lieu de prendre votre voiture pour par exemple aller au centre administratif, vous prendrez plus facilement le tram. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de la BNU, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas travailler avec des étudiants, en partenariat, notamment avec eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dois dire qu'on a quand même un budget conséquent de plusieurs centaines de millions d'euros. Je pense que les Strasbourgeois payent des impôts. Je me suis engagé pour qu'il y ait une stabilité fiscale. Mais je pense que vraiment, pour ce qui est d'une bibliothèque ouverte 24 heures sur 24, en travaillant notamment avec les étudiants qui souhaitent s'engager pour leur municipalité et pouvoir assurer
Elle est très populaire, votre mesure sur, oui, sur la BNF auprès des jeunes.
Tout à fait.
C'est sûr, mais il y a beaucoup, enfin, vous êtes le candidat, il y a beaucoup d'annonces, en fait, sur des sujets. Alors, ça a l'avantage de la clarté, vous vous êtes exprimé de manière. Et puis, vous travaillez beaucoup le visuel aussi, hein, sur l'avenue des Vosges, vous avez posté des choses très visuelles.
Bien sûr.
Sur la BNF, etc. Je reviens juste une minute, si vous voulez bien, sur les entreprises.
Oui.
Comment, encore une fois, si vous voulez bien, de manière concrète, comment est-ce qu'on fait pour attirer ? Alors, il y a l'allemand, vous l'avez dit, hein, j'ai bien entendu, et j'avais vu dans votre programme, c'était un point très important. L'anglais l'est aussi, hein, il faut rappeler qu'on est quand même capitale européenne.
Bien sûr.
Comment est-ce qu'on motive des entrepreneurs à se dire, tiens, je vais m'installer à Strasbourg, économiquement, il fait bon vivre, je peux là développer l'emploi,
alors,
j'ai de la compétence.
Je vais vous dire déjà, il y a une première chose. Et je veux surtout attirer des sièges sociaux. Parce que lorsque, par exemple, je parle avec le patron de Soprema et qui me dit que bon, il y a son siège social à Strasbourg, il y a 1600 nuits par an qui sont liées directement au fait qu'il y a un siège social de la Soprema. C'est 1600 repas, nuits d'hôtel, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher la ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il me dit ? S'il veut son siège social à Strasbourg, c'est évidemment un affichage. C'est parce que c'est une ville et une capitale européenne. Et je peux vous dire qu'il y a une chose déjà qui compte pour l'ensemble de ces entreprises, c'est l'image générale de la ville. Et donc, premièrement, éviter les problèmes. Ça vous paraît complètement, absolument pas lié, mais je peux vous dire que ce qui se passe à Nouvel An, c'est lié. Quand vous entendez partout qu'à Strasbourg, ça brûle et qu'il y a des voitures, et que ça devient la capitale des voitures brûlées, vous ne donnez pas envie au chef d'entreprise qui peut installer un siège social à Strasbourg de le faire, premièrement. La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est l'environnement global, c'est-à-dire comment on vit à Strasbourg, est-ce qu'il y a une belle université, le fait qu'on ait aujourd'hui une université qui a 5 prix Nobel, c'est une chance. Lorsque vous êtes une grande entreprise, vous avez besoin des meilleures compétences. Et c'est pourquoi je propose, avec ma liste, qu'on puisse créer une bourse de Strasbourg pour 100 doctorants strasbourgeois qui s'engageraient contre une bourse de 500 euros par mois de non seulement, évidemment, la produire à Strasbourg, mais en plus de laisser aux entreprises un droit de premier regard. Ce qui permettrait du coup, non seulement à ces doctorants brillants de rester à Strasbourg et de créer du lien encore plus fort avec l'ensemble du tissu entrepreneurial local. Donc ça, je pense que c'est extrêmement
important. Vous parlez de rayonnement.
Oui, il faut faire rayonner cette ville. Je dois dire qu'il faut qu'on entende parler de Strasbourg.
Comment en dehors du marché de Noël ?
Exactement. C'est-à-dire que Strasbourg, ça ne doit pas être seulement le marché de Noël ou le Parlement européen. Strasbourg, ça doit être une ville sportive. Comment on a pu rater le Mondial 98 puis l'Euro 2016 ? On est une capitale européenne et on rate l'Euro 2016 en France. Quelle faute ! Comment se fait-il qu'on a un parc des expositions qui est si âgé ? Ça fait juste 12 ans qu'on dit qu'on doit le rénover. Il est encore sur papier glacé. Quelle faute ! Comment se fait-il que ça fait 10 ans que le Tour de France manifestement fait tout pour ne pas passer à Strasbourg ? C'est parce que la ville de Strasbourg ne met pas tout en œuvre pour que des événements importants qui font rayonner notre ville ne soient pas présents. Je veux de l'ambition. Pardon, ce mot est peut-être un gros mot pour beaucoup. Eh bien moi, je dis que je veux que Strasbourg rayonne. Je veux qu'il y ait de l'ambition. Je veux qu'il y ait de l'énergie. Ça fait 12 ans que c'est la même équipe. Eh bien moi, je pense que dans une association, comme dans toutes les entreprises, au bout d'un moment, faut quoi ? Faut un regard neuf. Faut une nouvelle énergie. Faut des gens qui ont envie d'aller sur le terrain. Et j'ai une proposition qui est claire. C'est de nommer un monsieur attractivité. Il s'appellera Eric Senet. C'est quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise. Et moi, mon ambition, c'est que ce monsieur attractivité ne soit pas à Strasbourg matin, midi, soir. Il faut qu'il prenne sa mallette, son ordinateur portable et qu'il aille voir tous ceux qui veulent créer des emplois à Strasbourg ou ailleurs pour aller les convaincre de venir chez nous, de leur dire qu'on sera en train de leur faciliter la vie. J'entends que Huawei, par exemple, veut ouvrir une entreprise peut-être chez nous de 400 emplois. Mais moi, je peux vous dire que maire de Strasbourg, on ira les voir pour leur dire « offrez des emplois aux Strasbourgeois ». Il y a tellement de personnes qui sont armées, qui ont envie de pouvoir, qui ont un bagage intellectuel et qui ont envie de pouvoir s'engager notamment dans une entreprise et qui veulent venir travailler. Et donc oui, je vais faire en sorte d'aller convaincre ces entreprises de venir à Strasbourg.
Il y aura des contreparties justement de la ville de Strasbourg.
Alors déjà une stabilité fiscale, oui. Une stabilité fiscale. Les entreprises, je veux dire, les entreprises allemandes, pourquoi elles vont bien depuis Schröder ? C'est la même, le même taux fiscal. Il faut que nos entreprises puissent avoir...
La fiscalité, c'est l'État, non ? C'est pas...
Ah non, mais il y a aussi, évidemment, la CFE, qui est la fiscalité des entreprises et qui est déterminée chez nous, sur notre territoire. Local. Donc là, je veux une stabilité fiscale pour dire à nos entreprises qu'effectivement, elles pourront s'installer à Strasbourg et qu'elles auront une visibilité. Je veux aussi une visibilité, évidemment, sur la ZFE, c'est-à-dire sur le diesel. C'est dire, c'est quand même incroyable, on est un territoire, il s'appelle l'Eurométropole. Eh bien, sur ce territoire, on a deux règles. Fin du diesel en 2025 pour Strasbourg, fin du diesel en 2030 pour l'Eurométropole. Mais c'est une faute. C'est une faute. C'est une manière de dire, entreprise, si vous installez dans l'Eurométropole, surtout ne venez pas à Strasbourg. Donc moi je veux un territoire, je veux une règle, 2030 pour tous. Et puis enfin, sur l'avenue des Vosges, je vous l'avais dit.
Deux fois deux voies.
Mais
on
oui.
On reprend l'autoroute urbaine alors.
Non, c'est pas l'autoroute urbaine. Je veux dire, ça fait simplement des années que cette avenue des
Vosges... Il n'y a pas moyen de faire les choses différemment que de revenir mais sur ce qui était déjà en cours à l'époque.
Ben, écoutez, on peut faire les choses intelligemment. Effectivement, on peut penser à une vélorue dans les rues parallèles de manière à ce que les vélos puissent pouvoir évoluer aussi, dans le secteur sécurité. En toute sécurité. Mais aujourd'hui, faire de la communication en disant « Regardez, c'est formidable, maintenant on va mettre des pistes cyclables. » Et finalement, arriver à une situation...
Tout le monde est revenu sur l'avenue des Vosges.
Eh bien, j'ai été le premier à le dire très clairement. Et ça a été effectivement une clarté politique. Et j'ai assumé ce choix. Que les autres, finalement, me soutiennent, c'est formidable. Simplement, je peux vous dire que si vous revenez deux ans en arrière, matin, midi et soir au conseil municipal, je n'avais de cesse de répéter que cette avenue des Vosges était mal pensée, qu'elle était dangereuse pour les cyclistes, que ça allait produire des bouchons et que n'importe quel spécialiste de la qualité de l'air vous dira que lorsqu'il y a des bouchons, l'air est encore plus mauvais que lorsqu'il y a une fluidité du trafic. Moi, je ne veux pas la voiture partout, mais je veux la voiture parfois.
Il est vrai que sur ce sujet, vous avez été, je dois le dire parce que j'ai regardé, ce que les uns et les autres ont fait, assez clair depuis le début sur ce sujet au Conseil municipal.
Oui, mais je pense exactement. Il faut de la clarté, il faut de la cohérence. Et je pense que lorsqu'on vote pour un maire, il faut aussi qu'on vote pour un projet clair.
Vous vous présentez comme le candidat des actifs. Alors j'ai deux questions. Le format est court, donc on va essayer de... Je vais vous demander d'y répondre de manière courte. Vous êtes présenté tout de suite comme le candidat des actifs, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent tôt, et voilà, donc c'est votre histoire. Et comment vous imaginez les choses pour ceux qui aujourd'hui sont en périphérie de la ville et qui n'ont pas la chance d'avoir la formation?
C'est une excellente question. Je vais vous dire une chose. Strasbourg, mais j'ai pas seulement été le candidat des actifs, j'ai été un candidat actif. Sur le terrain, présent sur le terrain. Le 31 et le 1er, j'étais, pendant peut-être que d'autres, et ils ont raison, j'ai été sur le terrain, auprès des Strasbourgeois. Je peux vous dire une chose, je ne le découvre pas, j'ai même sur ma liste des gens très implantés dans les quartiers, et moi-même, je suis
Qu'est-ce
très
qu'on présent. Fait pour les quartiers?
Je vais vous dire aujourd'hui, Strasbourg, c'est l'histoire de deux villes. C'est l'histoire de deux villes. Et il y a toute une partie, il y a une deuxième ville strasbourgeoise qui se sent complètement abandonnée. Ils se sont sentis abandonnés le 1er de l'an, enfin le 31, mais aussi, je peux vous dire, quasiment tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils veulent de l'emploi, ils veulent pouvoir travailler et ils veulent de la sécurité. De la sécurité pour avoir des commerces de proximité, pour avoir une vie apaisée dans leur quartier, une vie apaisée aussi pour leurs enfants. Ils veulent que leurs enfants puissent réussir, mais ils veulent aussi de l'emploi. Et quand je parle des actifs et que je parle des entreprises, c'est pas seulement pour les entreprises, c'est parce qu'ils créent des emplois et ils créent des opportunités. Je veux que Strasbourg soit la ville des opportunités. Et pour eux aussi, je veux dire que Strasbourg doit être la relation de ceux qui n'en ont pas. Vous savez qu'en troisième, par exemple, on fait des stages. Évidemment, il y a ceux qui ont des réseaux, dont les parents ont des réseaux, ils font des stages merveilleux. Et il y a ceux qui font les stages dans les endroits les plus compliqués parce qu'ils n'ont aucun réseau. Je souhaite que Strasbourg, parce qu'elle pense aux entreprises, crée des partenariats avec les plus belles boîtes strasbourgeoises pour dire « offrez-nous des milliers de stages ».
Une plateforme ?
Oui, une plateforme où les entreprises se promettent de pouvoir offrir des stages à ceux qui n'ont pas encore de réseau. Parce que je suis persuadé que la justice n'est réelle que si chacun... Non pas à la même chose, ça ne sera pas possible, mais au moins à les mêmes opportunités. Et je veux
les mêmes chances, finalement.
Les mêmes chances, et c'est là où il y a de la justice, et c'est là où on peut accepter de vivre sa vie en toute quiétude, c'est-à-dire en se disant, finalement, j'ai aussi eu ma chance, et je veux avoir ma chance. Il y a des gens qui n'ont aucune chance parce qu'ils sont dans leur bulle, et on les enferme dans leur bulle. Je veux que le maire de Strasbourg soit celui qui rend les choses possible et qui parle à ces jeunes Strasbourgeois en leur disant on va vous mettre en relation avec les belles entreprises, vous aurez la chance dans votre vie de pouvoir faire vos preuves, quel que soit votre nom, quelle que soit votre origine, quel que soit ce que vous avez peut-être pu faire, je souhaite donner la chance à chaque jeune Strasbourgeois.
On va parler des alliances hein, un petit peu.
Ça nous
évitera de ce soit la dernière question. Vous êtes crédité aujourd'hui d'une 15aine de %. Donc il faudra inévitablement des alliances. Est-ce que vous y réfléchissez ? Est-ce que ce sont des choses ?
Je suis désolé
d'anticiper parce
bien
que
sûr.
C'est vrai que c'est plutôt un problème qui se, enfin une question. Mais quand on voit, aujourd'hui l'éclatement finalement au niveau politique aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose au premier tour aujourd'hui parce que personne n'est en mesure d'avoir une majorité claire au premier tour. Donc inévitablement, si les sondages, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, se révèlent dans les urnes, il va falloir envisager des alliances. Avec qui vous allez faire alliance au second tour? Alors, si un rapprochement devait
déjà,
s'opérer.
Votre question elle est légitime, mais elle se base sur un sondage qui est fait un moment...
Je vous l'ai dit, le sondage n'est pas...
Je peux vous dire, à l'exemple même de 2001...
Jean-Philippe Véter, même si vous n'êtes pas à 15 et que vous êtes à 20 peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, avec 20%, avec 22%, même avec 25%, on ne fait pas une majorité municipale. Donc, il faudra bien un moment que cette question se pose.
Écoutez, je vais déjà vous dire, premièrement pour ce sondage, il est fait... il y a maintenant 2 ou 3 semaines, donc les gens ont été appelés il y a 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, non seulement j'ai sorti mon projet, non seulement j'ai pris des positions extrêmement fortes, vous avez, grâce à des radios comme la vôtre, mais aussi des médias, l'occasion de me donner la parole. Et les gens, je vois une chose dans ce sondage, c'est que 63% des gens veulent du changement. Et moi, j'ai un message clair depuis le début, c'est de dire que 3 candidats
vous
qui se présentent...
Vous êtes le candidat de la rupture.
Mais du changement, du vrai changement. Je veux dire, ça fait 12 ans qu'ils ont tous les leviers du pouvoir. Comment peuvent-ils nous expliquer maintenant qu'ils sont candidats, qu'ils vont tout défaire de ce qu'ils ont pu faire lorsqu'ils étaient élus? Qui peut les croire? Qui croire? L'élu qui a bétonné la ville ou le candidat qui veut maintenant la verdir? Moi, j'étais toujours clair et cohérent. Non seulement lorsque j'étais 6 ans dans l'opposition municipale, où j'ai voulu proposer une autre vision de la ville, et maintenant en tant que candidat avec une formidable équipe qui dit très clairement qu'une autre ville est possible. Strasbourg a tous les atouts pour réussir. Maintenant, il faut un regard neuf, il faut un nouveau souffle. Et je vais vous dire une chose sur le deuxième tour. Déjà, il y a un premier tour, premièrement. Et deuxièmement, je vais vous dire, si j'ai fait des études dans le sport, c'est parce que j'étais un tennisman. Jamais je suis rentré sur le terrain en me disant que j'allais perdre. Je vais gagner cette élection parce que je suis persuadé que les Strasbourgeois veulent maintenant un nouveau souffle et un nouveau maire pour leur ville.
Mais il faut anticiper un petit peu en cas de deuxième tour, c'est très beau ce que vous dites. Et voilà, comment est-ce que vous envisagez justement ce deuxième tour?
Pour poursuivre même cette métaphore sportive, je peux vous dire...
Vous pouvez ne pas répondre, hein, c'est pas...
C'est même pas une question. Je peux vous dire que lorsque vous êtes un sportif, vous êtes dans votre couloir, il y a une ligne d'arrivée, et moi je regarde cette ligne d'arrivée.
Donc votre réponse, c'est que vous pensez l'emporter au premier tour. Ok. On prend note. Mais c'est marrant, je vais vous faire une petite réflexion toute personnelle, mais quand j'ai regardé le portrait qui a été préparé par Valérie, magnifiquement préparé comme à chaque fois, j'ai eu un réflexe complètement stupide. Je me suis dit, il a fait des études de sport, mon Dieu, mais vous êtes un passionné de sport en fait.
Oui, je suis un vrai passionné de sport. Je pense que le sport fait rayonner Strasbourg. Déjà, le sport de haut niveau fait rayonner Strasbourg.
Quand vous entendez parler, vous aviez signé pour l'extension du stade de la Méno.
Mais évidemment. Mais vous savez, je parle de tous les sports. Celui qui fait rayonner la ville, c'est-à-dire que là, on parle presque plus d'économie. Chaque dimanche ou samedi, vous entendez parler de Strasbourg grâce à ces grands clubs qui font rayonner et qui font briller les yeux des enfants. Et qui sont en fait aussi et c'est pour ça que je ne veux pas les opposer, des locomotives pour le sport amateur. Parce que le sport amateur, ça fait rayonner les Strasbourgeois. Ça vous apprend les règles, ça vous apprend l'estime de soi, ça vous donne envie de vous dépasser. Et oui, j'ai fait un bac S et j'étais un bon matheux. Voilà,
bah, après, Sciences Po, voilà. Vous êtes revenu dans le droit chemin, entre guillemets.
Oui, en fait, voilà, j'ai plusieurs passions, mais c'est vrai que je pense que le sport, c'est une chance et ça va être une des priorités de
mon mandat. C'est quelque chose qui vous construit, oui.
Je pense que ça construit énormément de Strasbourgeois, même, de tous les milieux, de toutes les origines.
Moi, il y a quelque chose qui me... J'ai vu dans votre programme l'interdiction de la mendicité. Alors, moi, je veux bien, c'est un effet d'annonce, et puis c'est
mendicité
vrai que parfois...
Ouais.
Voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y être confronté, mais mes enfants qui étaient au lycée, pas très loin, m'ont dit que souvent, ils étaient un petit peu ennuyés, place Kléber, dans les années où ils y étaient. Alors... Ok, on n'est pas très content de se faire aborder par des gens pas très propres sur eux et parfois agressifs, parfois aussi sous emprise. Mais comment est-ce qu'on résout la mendicité qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme ça a été fait par la mairie de Toulon il y a une vingtaine d'années, on prend les SDF dans une camionnette, d'ailleurs ils ont été sanctionnés pour ça, et puis on les dépose à 30 km de la ville en espérant qu'ils ne reviennent pas. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que dire je suis contre la mendicité agressive, tout le monde est contre la mendicité agressive, mais comment est-ce qu'on la traite ?
Alors déjà, premièrement, effectivement, vous avez raison, c'est pas un arrêté anti-mendicité, mais un arrêté anti-mendicité agressive et organisée.
Alors comment on les arrête quand ils sont agressifs ?
Alors déjà, la première chose, c'est que je peux vous dire une chose, c'est que mon père, s'il était boulanger, il était aussi orphelin, et s'il était à l'orphelinat, et c'est un enfant de l'assistance publique, c'est parce que lui-même, son père, qu'il n'a pas vraiment connu, était justement quelqu'un qui était dans un sans-domicile fixe, qui était dans le dénouement le plus total. Mon arrêté, c'est pas contre ces gens-là. Au contraire, je souhaite qu'on puisse tendre la main. J'ai parlé par exemple avec Valérie Pécresse qui m'a dit qu'elle créait des maisons des SDF en dehors de la ville pour pouvoir faire en sorte que quand je discute avec ces personnes sans domicile fixe...
Un cache-misère, c'est un petit peu quand même.
Non, mais écoutez, je peux vous dire, ces personnes... Non, parce que regardez, la réalité, c'est que ces personnes-là, par exemple...
Qu'est-ce qu'on fait dans ces maisons ? On forme les gens ?
Attendez.
Pardon.
Ces personnes-là, lorsque vous discutez avec elles, parfois... D'ailleurs, elles sont bien souvent ouvertes vraiment à la discussion. Ce sont des personnes qui, depuis 5 ans, par exemple, vivent dans l'alcoolisme. Et ils vous disent que lorsqu'ils essayent de s'arrêter, ils vivent dans un tel environnement où tout le monde boit, ça ne peut pas marcher. Donc oui, il faut avoir ce courage, pas de les obliger, pas du tout, mais de proposer, de tendre la main pour trouver des solutions. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est les SDF classiques, en quelque sorte, voilà, qui existent depuis des années. Ce n'est pas du tout mon ambition de pouvoir leur dire « dehors, manu militaire ». Par contre... Pardon, mais ceux qui sont accompagnés de chiens, qui se couchent sur le sol, ceux qui font une mendicité où ils sont face contre terre avec un gobelet, je dis non. Je dis non pour une raison simple, c'est que je pense aussi aux familles strasbourgeoises qui vivent dans le centre-ville, dont les enfants se font parfois alpaguer et insulter. C'est scandaleux. Je pense aussi aux commerçants. Je suis un fils de commerçant. Quand vous payez un fonds de commerce et que vous faites tout, vous mettez des milliers d'euros pour rendre votre commerce attractif,
mais où est-ce qu'on
que
met
c'est
ces
plus
gens
plus
on
difficile.
Est, on, mais écoutez, on je peut peux partager vous... votre analyse, mais oui. Où est-ce qu'on met ces gens ?
Mais c'est quand même pas à moi de commencer à dire on va vous payer l'hôtel, vous allez aller ailleurs, on va vous mettre un... Je souhaite simplement qu'on mette en place un arrêté anti-mendicité agressive ou organisée.
Donc on les arrête.
Écoutez, s'ils sont par exemple en ébriété, ils doivent être arrêtés parce que c'est la loi. Et donc dans ce cas, on les arrête. Et si le lendemain ils reviennent, on les arrête
ce
encore. Jusqu'à qu'ils comprennent que peut-être que Strasbourg c'est pas la ville dans laquelle ils peuvent continuer matin, midi et soir.
Donc il y a une forme
à rendre
un peu de,
la vie
on leur
plus
fait
difficile.
Comprendre régulièrement que leur place.
Mais écoutez,
plus
je peux vous dire que quand il y a une vraie ambition de la ville de pouvoir régler un problème, on y arrive. Par contre, quand il y a un laisser-aller généralisé, comme ce qui s'est déroulé ces 10 dernières
sur ce point-là.
Oui, mais bien sûr, ça fait 10 ans. Les étés sont de plus en plus compliqués à Strasbourg. Je veux dire, quand vous êtes touriste et que vous arrivez à Strasbourg, vous avez une image romantique de la ville avec cette cathédrale et vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça. Et c'est pas lié seulement aux personnes effectivement qui sont SDF de manière traditionnelle, pas du tout. C'est lié effectivement à un développement de cette mendicité agressive, alcoolisée bien souvent avec des chiens, et aussi cette mendicité organisée où ce sont des gens qui se retrouvent le matin, qui s'éparpillent dans la ville avant de se retrouver le soir. Je dis non, et je pense qu'avec la volonté, oui, on peut y arriver.
Alors. Parfait. Valérie, pardon.
Non, mais moi, je vais être l'oiseau de mauvaise augure pour vous dire que notre temps parti est terminé. Vous aviez une dernière question.
Oui, une dernière.
Et une phrase de réponse.
Oui,
voilà,
on entend beaucoup chez les jeunes
le
parler
coach,
de vous. Alors, très rapidement, quelles sont les mesures que vous voulez mettre pour la jeunesse ? Et puis, Ils parlent beaucoup, mais est-ce qu'ils vont aller voter? Voilà, c'est ma deuxième question.
Écoutez, qu'ils aillent ou pas voter, je peux vous dire une chose, on doit miser sur notre jeunesse. Le maire de Strasbourg doit être le maire des jeunes également. On a quand même 60 000 étudiants ici, donc c'est vraiment formidable et c'est une chance. Les jeunes, soit ils restent à Strasbourg...
BNF ouverte 24-24.
La BNU
ouverte, pardon. Excusez-moi, mais aussi, j'ai dit 15 fois BNF.
Oui, c'est pas grave. C'est la BNU, effectivement, ouverte 24 heures sur 24, mais aussi créer un service civique strasbourgeois. C'est-à-dire que les jeunes qui ont 18 ans, qui viennent par exemple d'avoir leur bac, je leur propose pendant deux mois de se mettre au service des associations qui ici œuvrent pour
nettoyer
Strasbourg.
Les quartiers comme vous avez fait avec votre équipe au début de campagne.
On a fait un Osterputz citoyen, comme on l'appelle. Vous savez, il ne faut pas toujours se demander qu'est-ce que l'État peut faire pour moi ou la ville peut faire pour moi. Il faut aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville. Et donc mon ambition, c'est pendant deux mois...
C'est Churchill, ça, je crois.
Non, c'est Kennedy, mais, mais d'autres personnes pourraient le dire très très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est pendant deux mois, s'engager pour des associations et aussi, pendant ces deux mois, deux semaines de formation sur l'histoire de notre ville, de tous ceux qui ont pu composer notre ville, qui sont les forces vives, qui sont les racines de notre ville, pour mieux comprendre ce que c'est d'être strasbourgeois. Être strasbourgeois, c'est pas être dans une petite ville de province. Être strasbourgeois, c'est être dans une grande ville, une capitale européenne qui a énormément d'avenir. Je veux que les jeunes restent et deviennent des ambassadeurs de leur ville.
Ce sera le mot de la fin.
Jean-Philippe Véter, avec Patrick Cohen, nous étions ravis de vous recevoir
moi
aujourd'hui.
Aussi. Merci.
Alors, on va dire aux jeunes, allez voter. Ce sera le 15 et 22 mars prochain.
Merci à vous. Merci pour votre invitation.